Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 64 de la Sainte Sourate Al-Amran. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel fait aux gens du livre et aux croyants pour adhérer à un principe commun, l'adoration de Dieu l'unique.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن صدق الله العلي العظيم.
Dis, ô gens du livre, venez-en à un dire qui soit commun entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que parmi nous, nul n'en prenne d'autre pour Seigneur en dehors de Dieu. Puis, s'il tourne le dos, eh bien dites, soyez témoins que oui, c'est nous qui sommes les soumis.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce jeudi 23 septembre 2021. J'ai le plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Vous aurez ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'Iran dénonce le double standard nucléaire USA-Grande-Bretagne. Un drone de l'armée israélienne est tombé sur le territoire syrien et l'Algérie ferme son espace aérien à tous les avions marocains. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Le représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès des organisations internationales a vivement critiqué la décision des États-Unis et du Royaume-Uni de vendre des sous-marins nucléaires à l'Australie dans la conjoncture où ces pays ont toujours blâmé l'Iran pour l'enrichissement de l'uranium à des fins civiles. M. Kazem Gharib Abadi a critiqué, le mercredi 22 septembre, la politique de deux poids deux mesures des États-Unis et de la Grande-Bretagne envers les programmes nucléaires de l'Iran et de l'Australie. Gharib Abadi a déclaré « Il est regrettable que les pays reprochant à l'Iran l'enrichissement de l'uranium à 60%, ce qui est fait à des fins humanitaires et pacifiques, ont décidé de vendre à l'Australie des sous-marins nucléaires militaires qui fonctionnent au combustible nucléaire enrichi à plus de 90%. » Le haut diplomate iranien a poursuivi. L'Agence internationale de l'énergie atomique, la IAEA, doit avoir accès aux matières nucléaires hautement enrichies en Australie à tout moment convenu et raisonnable, et aucune excuse n'est acceptable. M. Gharib Abadi a déclaré que les États-Unis et le Royaume-Uni devraient cesser d'avoir recours à des politiques de deux poids, deux mesures et à l'hypocrisie et de fuir leurs obligations en vertu du TMP, en particulier l'article 3, sous prétexte de fausses préoccupations stratégiques. Le ministre iranien des Affaires étrangères, lors d'une rencontre avec son homologue britannique, le mercredi 22 septembre à New York, a rappelé à la mise en œuvre du remboursement de la dette britannique vis-à-vis de l'Iran vieille de 4 décennies. M. Hossein Amir Abdullahian et Mme Elizabeth Truss ont discuté des questions bilatérales du plan global d'action conjoint et de la situation afghane en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Rappelons que la reconstruction des relations bilatérales nécessitait des mesures sérieuses. Le chef de la diplomatie iranienne a insisté sur l'impératif de la mise en œuvre du remboursement de la dette britannique, vieille de 4 décennies vis-à-vis de l'Iran. S'attardant sur l'échec de la partie européenne à remplir ses obligations liées à l'accord multilatéral nucléaire de 2015, après le retrait unilatéral des États-Unis de cet accord, M. Amir Abdullahian a souligné. il est nécessaire que la Grande-Bretagne fasse attention au fait que remplir ses obligations vis-à-vis de l'Iran est le seul moyen de reconstruire les relations bilatérales. Et Téhéran saura répondre de manière appropriée à toute mesure positive et constructive. Les deux parties se sont également penchées sur des questions consulaires, y compris la question des prisonniers ayant la double nationalité. Le chef de la diplomatie iranienne a eu également une rencontre avec son homologue syrien Faisal Mehrdad ce mercredi à New York. Les deux ministres ont discuté du renforcement des moyens de la coopération entre les deux pays, exprimé leur satisfaction du haut niveau de coordination aux différents niveaux. Ils ont également insisté sur la promotion des relations bilatérales au profit des aspirations des deux peuples en Syrie et en Iran. Un drone de l'armée israélienne est tombé mercredi soir sur le territoire syrien en raison d'une panne technique, a dit l'armée israélienne dans un communiqué. L'incident s'est produit lors d'une opération de routine et il fait l'objet d'une enquête pour déterminer la cause de cet incident et si des informations ont pu fuir du dispositif sans pilote, lit-on dans le communiqué. En juillet, un drone de l'armée israélienne est tombé au sol en territoire libanais. En février, un incident similaire s'est produit au Liban lors d'une opération militaire à la frontière. Un autre drone a également été perdu au-dessus du Liban en août 2020. À la suite de l'incident d'août, le mouvement de la résistance islamique libanais, le Hezbollah, a confirmé avoir abattu et récupéré l'avion sans pilote près de la frontière. Ces derniers mois, le régime de Tel Aviv a confirmé la destruction de plusieurs drones au Liban, en Syrie, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Le président français décide le retour de l'ambassadeur français à Washington la semaine prochaine. Emmanuel Macron a décidé mercredi que l'ambassadeur de France retournerait à Washington la semaine prochaine après un entretien téléphonique avec son homologue américain Joe Biden, selon un communiqué commun de l'Élysée et de la Maison-Blanche. Les deux présidents se sont entretenus par téléphone à la demande du président américain pour examiner les conséquences de l'annonce faite le 15 septembre dernier. Ils sont convenus que des consultations ouvertes entre alliés sur les questions d'intérêt stratégique pour la France et les partenaires européens auraient permis d'éviter cette situation. M. Biden a fait part de son engagement durable à ce sujet selon la même source. La France a rappelé vendredi dernier ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie après l'annonce par l'Australie de l'annulation de l'achat de sous-marins conventionnels français au profit de technologies américaines et britanniques. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie ont annoncé le 15 septembre un nouveau partenariat de sécurité baptisé AUKUS. L'Algérie a décidé la fermeture immédiate de son espace aérien à l'aviation marocaine, a annoncé mercredi soir la présidence algérienne. Cette décision intervient au terme d'un Conseil suprême de sécurité présidé par le président de la République. Alger a pris la décision face à la poursuite des provocations marocaines et des pratiques hostiles de fermer immédiatement l'espace aérien de tous les Marocains civils et avions militaires. A noter que l'Algérie avait déjà rompu ses relations diplomatiques avec son voisin fin août. Les actes hostiles incessants perpétrés par le Maroc contre l'Algérie ont nécessité la révision des relations entre les deux pays et l'intensification des contrôles sécuritaires aux frontières ouest, avait déclaré la présidence algérienne. Le 24 août, l'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc après des mois de tensions exacerbées entre ces deux pays. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, avait alors reproché à Rabat de n'avoir jamais cessé de mener des actions hostiles à l'encontre de l'Algérie. Les services de sécurité et la propagande marocains mènent une guerre ignoble contre l'Algérie. Son peuple et ses dirigeants avaient-ils accusé. Traditionnellement difficile, les relations entre l'Algérie et son voisin marocain ont connu une récente dégradation en raison notamment de l'épineux dossier du Sahara occidental. La normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, en contrepartie d'une reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur ce territoire, a encore avivé les tensions avec l'Algérie, soutien de la cause palestinienne qui a dénoncé des manœuvres étrangères visant à la déstabiliser. Le président tunisien Kais Saied a décidé de maintenir la suspension de toutes les activités de l'Assemblée des représentants du peuple, ARP, ainsi que la levée de l'immunité parlementaire de tous les députés de l'ARP, a annoncé mercredi la présidence tunisienne. Selon un communiqué officiel de la présidence tunisienne, le chef de l'État a également décidé la suspension des primes et de tous les avantages accordés au président de l'ARP et chef du parti Ennahda, Rachid Ranouchi, ainsi que la suspension des avantages accordés à tous les députés au nombre de 217. D'un autre côté, M. Saïd a décidé la suspension des activités de l'instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des lois. Le chef de l'État se chargera de l'élaboration et la préparation de projets d'amendement portant sur les réformes politiques nécessaires en coordination avec une commission devant être désignée via un décret présidentiel, indique le communiqué. Au moins 9 villageois ont été tués en début de semaine par des terroristes dans le centre-ouest du Tchad, une région en proie à d'incessantes attaques de Boko Haram et de Daesh. L'assaut a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi dans le village de Kajigorum, sur le lac Tchad, une zone au conflit du Nigeria, du Cameroun, du Niger et du Tchad, quatre pays où opèrent régulièrement ces groupes. Suite à seulement une centaine de kilomètres de la capitale N'Djamena, le lac Tchad et ses îlots marécageux sont devenus des repères du groupe nigérian Boko Haram ou de sa branche dissidente Daesh, le groupe d'État islamique en Afrique de l'Ouest. L'assaut et le bilan ont été confirmés par le chef d'une ONG humanitaire locale sous couvert de l'anonymat. Voilà, si s'achève le journal, restez à l'écoute du commentaire politique. Les États-Unis reconnaîtront une bombe nucléaire iranienne pour éloigner l'Iran de l'Est. Le 17 septembre, tandis que l'Organisation de coopération de Shanghai annonçait avoir accepté l'Iran à titre de membre à part entière, les États-Unis mettaient à la porte de leur coalition en Indo-Pacifique la France, quitte à nucléariser l'Australie. Peu d'analystes s'y sont intéressés. Et pourtant, les Américains viennent, à vrai dire, et au mépris du TMP, de transmettre à Canberra le savoir qu'ils refusent à l'Iran au nom de la non-prolifération. À quoi joue une Amérique dont le président annonçait pas plus tard que ce mardi devant l'Assemblée générale des Nations unies être engagé à ce que l'Iran n'ait pas accès aux bombes et qui, dans le même temps, fait entrer l'Australie dans le club fermé des dépositaires du nucléaire militaire? Plus d'un analyste y verrait une alliance Australie-Grande-Bretagne et États-Unis militairement nucléaire qui se forme dans une région hautement sensible pour les intérêts chinois, puisque tout près de Taïwan. L'Amérique est-elle prête à user d'armes nucléaires contre la Chine si celle-ci s'emparait, comme l'a d'ailleurs laissé entendre le président Xi? La réponse pourrait être affirmative et du coup renvoyée au nucléaire iranien. Une Amérique qui s'est retirée une première fois d'un accord nucléaire à caractère non proliférant avec l'Iran et se met une seconde fois à nucléariser l'Australie, sera-t-elle tentée de tolérer un Iran nucléaire pour éviter que ce dernier n'adhère pas le camp pro-Chine, comme ce qui vient de se produire via l'adhésion iranienne à l'ECS? Biden dit qu'il est prêt à revenir au plan global d'action conjoint si l'Iran en fait autant et qu'ainsi, même les sanctions pourraient être levées. Reformulons l'enjeu. Les États-Unis toléreront-ils une bombe nucléaire iranienne pour arracher l'Iran et ses précieux alliés de la résistance aux Russes et aux Chinois? L'enjeu est de taille quand on lit cet article de la Deutsche Welle dans lequel il est indiqué qu'après 16 ans, l'Iran a adhéré à l'ECS avec le soutien vif de Moscou et de Pékin. L'Organisation de coopération de Shanghai est une structure complexe couvrant un large éventail de domaines politiques, économiques, culturels, sécuritaires, humanitaires. À l'heure actuelle, le volume économique total de l'OCS avoisine les 20 000 milliards de dollars américains, soit 13 fois plus qu'au début de sa création. Le volume total du commerce extérieur a atteint 6,6 billions de dollars américains. L'opposition à l'adhésion des États-Unis et les efforts pour contrer et contenir l'OTAN font partie des activités de l'Organisation de coopération de Shanghai, tout en contrôlant les nouvelles menaces, notamment dans le domaine du terrorisme et de l'instabilité. Le CAS défiera l'hégémonie occidentale dans le système international et établira un nouveau pôle de puissance dans le monde. Les principaux membres de le CAS souhaitent créer une hégémonie pour l'Eurasie similaire à la théorie énoncée par Alford, Mackinder, érudit du début du XXe siècle. Cette théorie considère la région eurasienne comme le cœur de la politique mondiale, qui est de la plus grande importance stratégique dans le monde. À cet égard, l'adhésion de l'Iran, qui est le seul pays du Moyen-Orient membre de cette instance, accroît la position et l'autorité de l'organisation. L'Iran partage une frontière terrestre avec les pays de l'Eurasie qui mènent au golfe Persique et à la mer d'Oman. L'importance stratégique et géopolitique de l'OCS sera doublée en raison de la position stratégique de l'Iran qui peut transférer facilement l'énergie dans le golfe Persique et mobiliser les forces de la résistance afin de contrer et maîtriser l'hégémonie américaine. C'est du moins l'objectif que Téhéran s'est fixé en renforçant par ailleurs la position stratégique de la Chine et de la Russie. L'adhésion de l'Iran à l'ECS crée une force de contrôle vis-à-vis du camp pro-US. Reste à savoir si une bombe nucléaire iranienne, que reconnaîtraient les États-Unis et qui évidemment fournirait une formidable arme de dissuasion face à un Israël quasi mis au pas à coups de missiles, vaudra autant qu'un ancrage définitif à l'Est, espace auquel appartient historiquement l'Iran.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Le ministre saoudien de l'énergie a exprimé de l'inquiétude de son pays, du régime saoudien face au programme nucléaire iranien, face aux activités nucléaires iraniennes. Et cette prise de position d'Arabie saoudite intervient à un moment où il y a eu en fait des informations ces derniers temps concernant les activités nucléaires du régime saoudien, le régime saoudien qui refuse de coopérer pleinement avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, en ce qui concerne en fait son programme, son propre programme nucléaire. S'agissant de l'Iran, l'Iran a eu en fait une coopération, une pleine coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, et encore cette prise de position de Riyad intervient à un moment où les Américains ont annoncé vouloir retirer leur système de missiles Patriot de l'Arabie saoudite, ce qui a, si vous voulez, paniqué en quelque sorte les autorités saoudiennes qui sont allées en juger par des informations qui ont été diffusées par certains médias, sont allées jusqu'à, si vous voulez, commander le système de défense anti-aérien israélien d'homme de fer. C'est-à-dire qu'ils cherchent, les Saoudiens, les responsables saoudiens, cherchent à remplacer les patriotes américains par, en fait, des systèmes de missiles israéliens d'homme de fer, dont l'inefficacité a été prouvée quand même par, si vous voulez, des attaques qui avaient été menées contre l'Arabie saoudite elle-même, et également par la résistance palestinienne contre, si vous voulez, le régime israélien. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Toulouse un spécialiste français des questions internationales, Monsieur Pierre Dortiguier. Monsieur Dortiguier, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, cher Monsieur Nerostine. Bonjour à tous vos auditeurs et à votre invité, bien sûr.
Et l'autre invité de la mission d'aujourd'hui, Monsieur de Dortiguier, c'est un juriste français spécialiste des questions internationales. Il s'agit de Maître André Chamy, qui est avec moi par Skype pour cette émission depuis Alsace. Maître Chamy, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci à vous et bonjour au professeur Dortiguier.
Maître Deschamy, je viens de lancer le sujet, c'est-à-dire cette récente prise de position du régime saoudien contre l'Iran, cette fois-ci en ce qui concerne en fait les activités nucléaires iraniennes. Comment vous l'expliquez, Maître Deschamy?
Vous savez, les Saoudiens ne savent plus quoi faire. On les appelle, enfin, dans mon langage, je les appelle les danseurs de tango. C'est donner une image un peu humoristique, parce que à tel point de bêtise, on a du mal à garder son sérieux. Les Saoudiens, tantôt, ils peuvent renouer avec l'Iran, essayer d'avoir de bons rapports avec ce pays-là. Tantôt, ils veulent carrément déclarer la guerre mondiale contre l'Iran. Ils financent les activités terroristes pour tenter de déstabiliser ce pays, tout en ayant un regard pour savoir s'ils ne peuvent pas être aidés pour sortir du bourbier yéménite et d'autres bourbiers dans lesquels ils se sont mis. L'Arabie Saoudite est aujourd'hui un pays, moi je l'appelle à la dérive, parce qu'il n'a pas de port d'attache, il ne sait plus où s'accrocher. Avec les Américains, il n'arrive pas à avoir de véritables relations entre de véritables partenaires, parce qu'il est traité comme un subordonné, avec l'humiliation infligée par les Américains, tant par Trump que par Biden actuellement, parce que Biden maintenant ne les calcule plus, comme on dit dans le langage habituel. Et évidemment, leurs relations internationales avec les autres pays ne marchent qu'avec leur chéquier. C'est prouver à quel point eux, ils peuvent avoir le minimum d'estime au regard des pays autres que ceux qu'ils financent. Qu'est-ce qui reste ? Aujourd'hui, ils veulent à ce moment-là bien se faire voir sur la scène internationale. Ils reviennent avec la sauce de l'activité nucléaire iranienne. L'activité nucléaire iranienne est d'abord est une activité civile et sous le contrôle de l'AEA. C'est-à-dire aujourd'hui, s'il y a un seul pays qui respecte les règles de droit international et surtout le traité de non-prolifération des armes nucléaires, c'est bien l'Iran, parce que l'Iran est dans le respect de ses obligations, même si aujourd'hui il en aurait la possibilité, de se débarrasser de ses contraintes, parce que justement cette organisation et les pays qui étaient les garants de l'accord sur le nucléaire iranien n'ont pas respecté leurs obligations, l'Iran aurait pu s'en défaire. Et malgré cela, l'Iran continue de respecter ses obligations. La preuve, c'est les visites constantes et des contrôleurs et des représentants de cette organisation. C'est-à-dire, ce que disent les Saoudiens sur ce terrain-là est totalement stupide. Par contre, les Saoudiens font comprendre qu'eux, ils voudraient acquérir l'arme nucléaire. À ce moment-là, ils ne sont plus dans l'activité civile, ils sont plus dans l'activité nucléaire. Mais bien entendu, comme personne ne leur fait confiance, personne n'a envie de leur fournir ne serait-ce que le moindre atome pour pouvoir développer cette activité-là. La question qui se pose pour l'avenir, c'est qu'est-ce que veulent les Saoudiens ? Parce que on connaît la République islamique d'Iran, on sait quels sont ses objectifs et quelles sont ses perspectives, alors que les Saoudiens, avec leur danse de tango, tantôt à gauche, tantôt à droite, nous ne savons pas, moi j'avoue, mon incapacité à lire leurs perspectives, parce qu'ils veulent avoir de bonnes relations avec les Américains, tout en ayant le regard pour essayer de contourner ce que les Américains leur demandent. Ils veulent avoir de bonnes relations avec les Iraniens, mais ils ne veulent pas être un véritable partenaire honnête et solide. C'est la raison pour laquelle ils travaillent aujourd'hui avec l'entité sioniste. Après le scandale sur le système de contrôle des communications Pegasus, maintenant ils veulent s'offrir le dôme de fer israélien, et on a vu dernièrement, l'incapacité du Dôme de Fer à faire face aux attaques multiples auxquelles l'entité sioniste pourrait faire, avoir affaire. Notamment par rapport à la bande de Gaza, on a vu que c'était juste pas possible et on a parlé de 30, 40, 50%. C'est une question de pourcentage de missiles ou même des projectiles qui n'auraient pas été interceptés par tout le système antimissile israélien. Alors vous imaginez si l'entité sioniste devait être attaquée de plusieurs fronts, c'est-à-dire c'est l'échec total de ce moyen de défense. Alors si les Israéliens croient pouvoir souffrir une quelconque protection grâce à cela, alors qu'ils ont déjà le système Patriot américain, ils ont déjà d'autres moyens de défense qui ne remplissent pas leur rôle. La preuve, c'est que les Yéménites arrivent à atteindre la profondeur du territoire saoudien. J'ai dit israélien, mais on n'en est pas loin parce que les Yéménites annoncent même qu'ils pourraient atteindre l'entité sioniste. Les Saoudiens ont déjà été touchés. Leur système anti-défense, Patriot et tout ce qui va avec n'a pas rempli son rôle. Vous imaginez la présence du dôme de fer israélien qui remplirait encore moins ce rôle-là. Mais c'est plus la tentative, pour ne pas dire la tentation, de travailler avec l'entité sioniste qui choque, mais bien entendu qui les met à découvert par rapport à leur velléité de se moquer complètement du monde arabe et bien entendu d'avoir un minimum de relations avec l'entité sioniste au mépris du minimum de loyauté, d'honnêteté et surtout de dignité par rapport à leur population et par rapport au monde qui les entoure. Tout cela par haine pour la République islamique d'Iran et par rapport à l'axe de la résistance. Nous verrons jusqu'où iraient les Saoudiens, mais s'ils continuent dans cette voie-là, c'est pour moi et objectivement en tant que simple observateur de cette partie du monde, pour moi ça annonce tout simplement la fin de l'entité saoudienne et très probablement l'émergence d'une nouvelle entité ou identité saoudienne qui marcherait sur les cendres, pour ne pas dire sur les décombres de l'entité d'Ibn Saoud et de la famille régnante actuellement.
Monsieur Pierre Dortillier, télé des Saoudiens, selon Maître Chami, leurs relations internationales ne marchent que grâce à l'or d'échiquier. L'Arabie Saoudite est un pays à la dérive. Les Saoudiens ne savent quoi faire. Et de l'inefficacité du système patriote américain a été prouvée par la résistance yéménite. Celle du Dôme de Fer a été prouvée par la résistance palestinienne. Il va y avoir l'effondrement du régime saoudien et l'émergence d'une autre identité saoudienne. Ce sont en fait les points qui ont été tout à l'heure évoqués par l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, Maître Chami. Est-ce votre avis également, M. Dortillier?
En effet, je n'ai plus que suivre, comme tous les auditeurs, avec grand intérêt, vraiment, en le remerciant, ce qu'a dit Maître Chami. Je pense qu'il faut redire à chaque fois que la structure de l'État saoudien, c'est-à-dire la conservation de la dynastie, a été déjà un point marqué au départ en 1945. J'aime le redire souvent lors des accords de Quincy entre Roosevelt, l'amiral Lee et puis le représentant saoudien. Et donc, les États-Unis se sont à l'époque portés garants de la poursuite de la dynastie saoudienne, moyennant bien sûr des avantages que vous connaissez. Et il se trouve qu'aujourd'hui, il y a une usure de cette politique-là, et le prince Salman, à notre sens, cherche un nouveau protecteur. Et je crois qu'il a trouvé ce protecteur avec l'entité sioniste, bien sûr. On parle naturellement du dôme de fer, tout ça, en disant qu'il a des impropriétés et autres. Enfin, l'essentiel, c'est surtout de faire admettre pour le, pour l'entité, pour la dynastie saoudienne à ses propres compatriotes et au monde arabe, disons une alliance, disons, je ne dis pas un changement, mais un glissement de propriété, voyez-vous. Et donc, pour le faire admettre, je crois qu'il est prêt même à, disons, comme il a fait au début du mois de mai dernier, faire les 12 yeux à chacun, y compris à l'Iran, comme il l'a fait, voyez-vous, en disant qu'il fallait que nous ayons de bonnes relations, des relations spéciales, il a même dit, avec votre pays, avec le Grand Iran. Et je crois que il faut insister sur la fragilité de la dynastie saoudienne. Maintenant que disons, des initiatives comme qui sont contradictoires, par exemple celle dont je parle, de vouloir se rapprocher avec l'Iran comme ils l'ont fait, c'est ensuite de menacer l'Iran, comme ils viennent de le faire maintenant, en disant que l'Iran est un danger du point de vue atomique, etc., etc. Tout ceci, à notre avis, est pour couvrir, je répète, une alliance profonde qui vient d'être faite avec l'État d'Israël. Et il faut le faire, bien sûr, admettre par les propres pays arabes autour, voyez-vous, à l'opinion également. Je crois que, disons, il y a ce qui est dangereux dans la dynastie saoudienne, c'est sa faiblesse originelle qui l'amène justement à chercher des protecteurs. Voyez-vous, il y a un paradoxe dans ce pays. Ce paradoxe, je le dis, on le date depuis 1945, il a été ensuite renouvelé, bien sûr, par les engagements américains. Je crois que c'était sur... il y a cela à peu près, je crois que c'est sous Bush qui a eu le renouvellement de cette alliance. Et je dois dire que c'est un État qui est instable par définition, et donc que ce soit dans les dernières conférences comme à Bagdad, par exemple, il y a une conférence où il y avait notre président de la République, à laquelle participait notre président de la République, il y avait la représentation saoudienne, la représentation iranienne, etc. Et je dois dire que ce qui est le danger en général d'un État, c'est sa force, sa puissance. Là, le danger de l'Arabie saoudite, c'est sa faiblesse constitutive. Et je crois qu'il faut en tenir compte comme d'un élément naturel. Et disons que cet État, le plus grand ennemi de l'État, finalement, c'est sa propre faiblesse. Voilà exactement ce que... Et il faudrait qu'il y ait, bien sûr, à l'intérieur de l'État saoudien, des forces nouvelles, des forces, disons, plus réalistes, qui prennent conscience, justement, de cette nécessité de changer de régime politique, pas de régime au sens constitutionnel, mais de changer de mentalité, de servilité envers le monde extérieur.
Maître Chami, en fait, l'intéressant, j'ai toujours, en fait, par ces informations diffusées par le média, Maître Chami, en fait, l'Arabie saoudite, son ministre de l'énergie, exprime son inquiétude quant aux activités nucléaires iraniennes. L'Arabie saoudite se met du côté, en fait, des régimes et des puissances qui cherchent à durcir des pressions contre l'Iran, toujours en ce qui concerne ses activités nucléaires, qui sont d'ailleurs pacifiques, venant en fait de le dire tout à l'heure. Mais l'Arabie saoudite se rapproche en même temps, si vous voulez, du régime israélien, qui est en fait le seul régime à détenir l'arme atomique dans la région, à détenir en fait l'arme nucléaire dans la région, à détenir quand même un arsenal nucléaire le plus redoutable dans la région. Comment vraiment peut-on analyser, interpréter une telle, si vous voulez, orientation, je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit appeler ça, une telle politique, une telle rhétorique de la part du régime saoudien, Maître Chami?
Vous savez, les Saoudiens, encore une fois, ils sont à la dérive. Alors, par conséquent, dans leur communication, on a du mal même à comprendre, si j'ose dire, le message qu'ils veulent transmettre. Parce que venir s'en prendre à la République islamique d'Iran par rapport au programme nucléaire, alors qu'effectivement, il y a de véritables armes nucléaires autour de l'Arabie saoudite, que ce soit le Pakistan, que ce soit l'entité sioniste, que ce soit l'Inde, et tout ça dans un environnement relativement proche. essayer de mettre en cause le programme nucléaire iranien qui est encore une fois le plus surveillé au monde, c'est se moquer du monde. Alors que eux-mêmes, maintenant, les informations qui ont filtré des services de renseignement il y a quelques années, il a été indiqué que les Saoudiens ont essayé d'obtenir de manière discrète, si j'ose dire, des armes nucléaires, mais personne n'a été en mesure de leur fournir les armes qu'ils souhaitaient, même s'ils ont sorti, si j'ose dire, le maximum de chèques. S'ils croient qu'eux, ils pourront être, si j'ose dire, protégés par l'Israélien, ils se trompent parce que au-delà et au-dessus des Israéliens, il y a les Américains. Les Américains ne travaillent que pour eux. Ce sont les Israéliens qui travaillent pour les Américains et pas le contraire. Par conséquent, quand les intérêts des Américains l'exigeraient, les Américains interviendraient auprès des Saoudiens pour exiger ce qu'ils voudraient, c'est-à-dire quand ils décident de ne pas autoriser la vente d'armes entre l'entité sioniste et l'Arabie Saoudite, ils pourraient l'exiger et bien entendu cette vente d'armes ne pourra pas avoir lieu parce que le premier vendeur c'est d'abord les Américains et eux ils peuvent laisser les miettes aux autres. Nous avons assisté ces derniers temps à un spectacle assez pathétique par rapport aux sous-marins français qui devaient être vendus aux Israéliens et quand les Américains ont décidé que ce contrat n'aura pas lieu, ben ils l'ont stoppé, alors qu'ils ont toujours présenté, je dirais, une situation d'amitié à l'égard de la France, et que c'est des partenaires, et puis qu'ils font partie de l'OTAN, etc. Mais quand leurs intérêts l'ont exigé, ils ont viré la France, et ils ont remplacé la France par d'autres sous-marins, alors qu'à l'origine, les Australiens ne voulaient même pas de sous-marins nucléaires et du jour au lendemain, ils ne veulent plus maintenant de sous-marins diesel et électriques et ils veulent que des sous-marins nucléaires. Ça démontre que les Américains, quand ils veulent exiger quelque chose, ils l'obtiendront parce qu'ils sont une sorte de maître sur leur sujet. Aussi bien les Israéliens que les Saoudiens sont des sujets pour les Américains. Pourquoi ? Parce que ces pays-là dépendent intégralement, de par leur souveraineté, de par leur entité, de par leur protection, de par leur économie, des Américains. Si les Américains un jour décident de couper les robinets, ces pays s'effondreraient. Et aujourd'hui, la fameuse liberté que les Saoudiens croient pouvoir avoir à l'égard des Américains en s'appuyant sur les Israéliens, c'est une fausse liberté. Il suffit de regarder ce que les Israéliens aujourd'hui subissent les Américains, c'est-à-dire aujourd'hui les contrats peuvent être bloqués non pas par solidarité par rapport aux Israéliens mais parce qu'ils disent que ce sont les intérêts américains qui l'exigeraient. C'est la démonstration aujourd'hui que même par rapport à l'entité sioniste, ce sont les intérêts américains qui priment. Les Saoudiens, s'ils n'ont pas encore compris cela, ça veut dire qu'il faudrait revoir toute leur politique étrangère, peut-être même carrément changer toute leur équipe qui s'occupe de la politique étrangère, à commencer par leur prince héritier jusqu'au dernier sous-fifre, si j'ose dire, au ministère des Affaires étrangères. Les affaires étrangères, c'est une affaire sérieuse, c'est une affaire de régalienne, c'est une affaire de souveraineté. Et ceux qui doivent s'en occuper, ce sont des gens qui doivent comprendre ce que c'est la souveraineté. Et à partir du moment où ce sont des gens qui n'ont pas compris ce que ça veut dire la souveraineté de l'Arabie Saoudite, alors qu'ils voulaient être les maîtres des lieux saints et que ce soit le guide du monde arabe et du monde musulman, aujourd'hui, ils se prennent mal, et ils se prennent très mal. Et bien entendu, ce n'est pas avec ces déclarations tonitruantes qu'ils pourraient parvenir à quelque chose.
Monsieur Dortiguier, une dernière question. En fait, et selon toujours Maître Chami, les Saoudiens et les Israéliens défendent intégralement des États-Unis et le régime saoudien se trompe fortement de s'appuyer sur le régime israélien parce que, en fait, il ne peut compter ni sur les États-Unis ni sur le régime israélien au jour J. Votre avis, s'il vous plaît.
Il est évident que, comme nous le disions en faisant référence à ces fameux accords constitutifs de 1945, que les Saoudiens n'ont absolument aucune indépendance politique. Ils ont signé, disons, la dynastie en tout cas a signé son arrêt de mort, si je puis dire, dès 1945, c'est-à-dire qu'elle a fait une aliénation de sa propre liberté en remettant son sort, évidemment, aux Américains, ce moment-là. Alors, les Américains et les Israéliens forment évidemment un seul bloc. Et il est certain aussi que, comme l'a fait remarquer Maître Chami, que la puissance colossale de l'armement atomique israélien qui a été dénoncée, vous le savez, il faut le répéter pour certains de nos auditeurs, par le fameux ingénieur Mordecai Vanunu, qui a fait 18 ans de prison en Israël pour cela, et donc quelques années en état complet de secret, bon, qui a dénoncé justement toute cette puissance qu'il avait vue à Dimona. Bon, tout ceci fait que les Israéliens et les Américains disent aux Saoudiens, si vous voulez qu'on a promis de vous défendre, eh bien, si on vous défend, on vous défendra avec nos propres armes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les Israéliens n'ont pas, mais pardon, les Saoudiens n'ont pas à négocier avec les Américains ou avec les Israéliens. Les Américains et les Israéliens se proposent toujours d'être les gardiens de l'Arabie Saoudite.
Merci.
La situation ne change pas dès le départ. Et donc, ce qu'il y a, c'est ce qu'on peut espérer, mais moi je ne crois pas que cela soit possible, c'est un changement de politique. Il faudrait à ce moment-là qu'il y ait un changement de structure à l'intérieur de l'Arabie Saoudite.
Merci beaucoup.
Il faut dire que cette opération de 45, je le répète, elle est ancienne, elle est toujours actuelle, et elle est très dangereuse. Elle a été très, très bien menée par les Américains à l'époque, et je dois dire que jusqu'au bout, ceci, que ce soit les Israéliens ou que ce soit les Américains, que ce soit les deux formes finalement de la même puissance économique et financière, eh bien, ils auront toujours le pas sur l'Arabie Saoudite.
Merci beaucoup.
Et tout ce qu'on pourra faire.
Merci infiniment, M. Pierre Dersiguier, philosophe français spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Toulouse. Mes vifs remerciements vont également à Maître André Chami, qui a été avec moi pour cette émission depuis à Alsace. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, à très bientôt.
Et la pratique des courants takfiristes. Le chef du groupe takfiriste État islamique au Grand Sahara, Adnan Abou Walid al-Sahraoui, a été tué par les forces françaises, a annoncé le président français Emmanuel Macron. L'homme circulait comme passager sur un moto qui a été frappé par un drone, précise le quotidien algérien El Vatan. Un décès qualifié de succès majeur par le chef de l'État français. Lui emboîtant le pas, la ministre française des Armées, Florence Parlé, a salué un coup décisif. Qui était réellement celui qu'on désignait comme le terroriste le plus recherché au Sahel. Ces déclarations ont leur raison d'être lorsqu'on sait que le groupe État islamique au Grand Sahara, créé en 2015 par Adnan Abou Walid al-Sahraoui, ancien membre du Front Polisario, puis de la mouvance takfiriste Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI, est considéré comme l'auteur de la plupart des attaques dans la zone des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Il avait été désigné comme ennemi prioritaire au Sahel lors du sommet de Pau. Mais qui est Adnan Abou Walid al-Sahraoui? Il est né d'une riche famille commerçante au Sahara occidental. Jeune, il a fui vers les camps de réfugiés sahraouis en Algérie, où il a été recruté par le Front Polisario qui lui assure une formation militaire. Le reste de sa formation idéologique se fera à Nouakchott, en Mauritanie, puis en Algérie. Ensuite, il va intégrer une Katiba, ou unité combattante d'Al-Qaïda, au Maghreb islamique. Il est rapporté qu'en 2015, al-Sakhawi a déclaré son allégeance à Abu Bakr al-Baghdadi, chef de l'État islamique d'Irak et du Levant, Daesh, et a formé l'État islamique du Grand Sahara, rapporte le site First Post. En 2012, il fait déjà partie des cadres du mouvement pour l'unicité de Dieu et le djihad en Afrique de l'Ouest, qui a occupé Gao dans le nord malien. Selon les médias, al-Sahrawi aurait imposé la charia dans la région, rendant le voile obligatoire pour les femmes, imposant de couper les mains aux voleurs et interdisant la musique, les sports, l'alcool et le tabac. Après l'opération française Serval en 2013, qui a dispersé les terroristes takfiristes au Mali, il fera un passage au sein du groupe des Mourabetoun, de redoutable Mokhtar Bel Mokhtar, alias le Borgne. Le même média écrit que d'autres personnes affirment qu'il était particulièrement vigilant, toujours armé et obsédé par sa sécurité. Il n'a jamais utilisé de téléphone et n'a jamais fait de vidéo ou d'enregistrement audio. La grande majorité de ses combattants ne l'ont jamais vu. Lorsqu'il devait voyager, il le faisait à moto et sans escorte pour ne pas attirer l'attention. Toutes ses préoccupations n'ont vraisemblablement pas pu éviter sa mort. Sous son leadership, l'État islamique au Grand Sahara a commis des attaques particulièrement meurtrières visant civils et militaires au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Il avait pris pour cible les soldats américains dans une attaque meurtrière en octobre 2017 à Tongo Tongo, au Niger. Il a revendiqué la responsabilité de cette attaque, qui a tué 4 militaires américains et 4 membres de l'armée nigérienne. À Washington, où la mort des 4 soldats a été très mal accueillie, sa tête a été mise au prix de 5 millions de dollars. Le 9 août 2020, le chef de l'État islamique au Grand Sahara aurait personnellement ordonné l'assassinat de 6 travailleurs humanitaires français et de leur guide et chauffeur nigérien au Niger. Après l'entrée progressive de l'armée syrienne dans diverses parties de la province de Dera, les experts, en s'appuyant sur les propos du président russe lors de sa récente rencontre avec Bachar el-Assad, souligne que le prochain objectif de Damas et de Moscou est de nettoyer l'une des plus importantes provinces occupées par la Turquie dans le nord de la Syrie. La chaîne libanaise Al-Mayadeen a récemment abordé la question dans un rapport du chercheur des relations internationales et expert des affaires turques, Hassani Al-Mahali, a commencé son rapport comme suit. Il est devenu clair que Damas, avec ou sans le consentement de la Russie, ne peut plus tolérer la poursuite de la situation actuelle à Idlib et dans le nord de la Syrie en général, car le maintenir dans cet état rendra la solution finale plus difficile. Dans une lecture rapide du discours du président russe Vladimir Poutine lors de sa réception soudaine du président syrien Bachar el-Assad lundi dernier, on peut clairement voir les caractéristiques des développements possibles en Syrie, au premier rang desquels figure le règlement de la question d'Idlib avec ou sans le président turc Recep Tayyip Erdogan. Le président Poutine a dit en s'adressant au président Assad, « Le principal problème réside dans la présence des forces étrangères dans certaines zones du pays sans décision des Nations Unies et sans votre autorisation, ce qui est contraire au droit international. Cela ne vous donne pas la possibilité de déployer le maximum d'efforts pour parvenir à la stabilité et à la sécurité dans le pays et d'avancer sur la voie de la reconstruction à un rythme qui aurait pu être atteint si les terres du pays étaient sous votre administration. L'objectif de la prochaine étape était clairement défini, à savoir la présence turque dans le nord de la Syrie et surtout la protection turque d'Idlib, y compris des terroristes de diverses nationalités. Selon l'article de la chaîne Al-Mayadin, ces déclarations du président Poutine ont été précédées d'informations de presse turque faisant état de graves divergences entre les chefs militaires turcs et les chefs des factions affiliées à la soi-disant armée nationale syrienne dans de nombreuses régions du nord de la Syrie, ce qui explique le refus de ces factions pour recevoir des terroristes de Deraa qui sont venus dans la région.